Alors bonjour à tous, hein. Ça fait vraiment tellement plaisir de revenir dans cette assemblée, une assemblée qui m'est vraiment chère à mon cœur. C'est vrai que quand Sabine m'a contacté, ça m'a comme fait, c'était tellement logique pour moi en fait. Je savais que lorsque je reviendrai dans le Nord, je passerai forcément par cette église, une église qui sans le savoir en fait m'a tellement béni et m'a accompagné aussi, alors que j'étais très très jeune dans la foi. Et donc aujourd'hui, je vais partager donc comme il a dit mon témoignage, en m'arrêtant plus sur des points qui pour moi sont importants et qui pourront très certainement en édifier plusieurs. Alors pour le début, j'aimerais bien passer une première vidéo. Voilà, ça c'était il y a maintenant 4 ans. Donc c'était moi sur la vidéo qu'on voit, je pense que plusieurs se doutent. Donc c'était il y a 4 ans et je vais vous raconter un petit peu mon témoignage. Du coup, mon frère, du coup c'est celui que vous voyez au début de la vidéo. Donc mon frère, il avait reçu un appel de ma maman qui lui a dit « ça y est, Freddy, il est en prison ». La police est venue le chercher et c'est tout en fait. Et mon frère, exactement comme dans la scène qu'on a vue au début, mon frère s'est effondré. Il est tombé, en fait. Et après cet événement-là, il a eu comme un choc post-traumatique, en fait. Ça l'a suivi après dans du stress. Même des mois plus tard, il continuait d'avoir du stress et du stress par rapport à cet événement qui l'a vraiment choqué. Et je vais revenir au début. Alors, j'ai pas grandi dans une famille chrétienne, de base. Mais mon frère s'est converti assez tôt. Il était dans l'islam et il a rencontré Jésus à un moment de sa vie. C'était en 2008, quelque chose comme ça. Moi, j'avais 12-13 ans. Je connaissais rien du tout de la foi, mais je le voyais un petit peu dans son changement, dans son cheminement. J'ai vu que il avait vraiment été bouleversé par quelque chose et il me parlait de Jésus. Et moi, j'étais jeune. Alors, j'ai commencé à venir avec lui à l'église sans pour autant comprendre l'importance que ça avait de Jésus en fait. Et j'y suis allé au point où même je me suis même fait baptiser vers mes 15 ans. Sauf que n'ayant pas réalisé pleinement qui était Jésus vraiment, j'ai quitté l'église. Donc un mois plus tard, vu qu'on vivait pas loin d'un quartier près de chez moi, je suis tombé un peu dans la délinquance très rapidement. Donc j'ai commencé à toutes sortes de vols à l'arraché, cambriolage et à vendre du cannabis. Tout s'est en fait très vite enchaîné. Et pendant tout ce temps, mon frère, en fait, il a été vraiment bouleversé par ça parce que il était convaincu que Dieu avait déposé une semence dans mon cœur. Il était convaincu que Dieu avait déposé quelque chose dans ma vie et ça, il pouvait pas se le retirer de la tête. Donc, il a commencé à prier pour moi. Alors, je parle pas de prier 2 minutes le matin et 2 minutes le soir en rentrant en ayant une pensée pour moi. Non, il a commencé à avoir un fardeau. C'est-à-dire que il me voyait sans arrêt dans son esprit et il ne pouvait s'empêcher de prier pour moi. Et quand il priait pour moi à cette période-là, il pouvait prier, admettons un exemple, il pouvait prier 2 heures un soir pour moi et le lendemain lorsqu'il me voyait, j'étais pire que avant qu'il prie les 2 heures. Alors dans sa tête, c'était comme humainement parlant, il se disait mais pourquoi je prie? Ça sert à quoi? Dans tous les cas, ça n'avance pas. Mais il y avait comme une quelque chose qui était là, une foi vraiment que non, je marche par la foi et non par la vue et je crois que Dieu va le sauver. Alors il continuait de prier et de prier et de prier. Et il venait me visiter dans mon quartier alors que je vendais de la drogue. D'ailleurs, il y a mon ami qui est là avec qui je vendais de la drogue qui est présent ici aujourd'hui et qui a aussi donné sa vie au Seigneur. Et je me rappelle que il venait dans la file de clients avec ça, excusez-moi. Avec sa voiture. Bon, je témoigne dans toute la France et c'est ici que je vais pleurer. Bon. Et il venait dans la file avec sa voiture et alors que je faisais les clients en voiture comme ça, lorsque j'arrivais à lui, il me disait « Jésus t'aime et tu peux revenir à lui ». Et moi, je calculais pas tout ça, je m'enfonçais vraiment tout le temps et tout le temps et tout le temps. Et lui, je sais même pas comment il faisait, mais vraiment c'est pour vous encourager, c'est que malgré qu'il voyait aucun changement, je montrais rien du tout, aucune émotion, mais il continuait de prier, et il priait encore, et il priait encore, et il priait encore. Et ma mère lui disait, mais tu vois, mais Freddy, il est vraiment parti trop loin et tout ça, et il disait à ma mère, tu verras que Freddy, il va revenir un jour à Dieu. Et il continuait de prier. Arrive le moment où je commence à vendre de la cocaïne et de l'héroïne. Donc mon comportement commençait à de plus en plus changer. Parce que quand on vend de la drogue dure, quelque part on tue des gens. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est quelque part, c'est comme si je prenais une arme et que je tuais quelqu'un. Il y a un impact spirituel lorsqu'on commence à vendre de la drogue dure. Alors quand je commençais à vendre de la drogue dure, je devenais un petit peu fou. Je perdais la tête, j'étais très électrique, très 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 en colère. Et donc en fait mon état s'aggravait. Et mon frère venait encore me voir. Et à un moment donné, je tombe en prison. Donc la police vient me chercher à la maison. Et là moi-même je me dis qu'il n'y a plus aucun espoir pour moi. Parce que du coup à ce moment-là, je me retrouve seul au final, seul avec moi-même. Ok, je suis en prison, personne n'est là forcément pour m'aider à part ma famille. Et il y a encore mon frère qui est là. Et mon frère qui vient me visiter. Et dans le parloir de la prison, qui me dit: je te vois avec un micro en train de prêcher l'évangile. Je dis: mais il est fou. Je suis en cellule toute la journée. Et il vient me dire ça. Ouais, savez pourquoi? Parce qu'il priait. Et lorsqu'il priait, il me voyait autrement. Il décidait de me voir autrement. Je ne sais pas pour qui tu pries, pour qui vous priez. Mais décidez de voir cette personne autrement. Lorsque vous la voyez, ne la voyez pas dans la condition dans laquelle elle est aujourd'hui, mais voyez-la dans la condition dans laquelle elle sera lorsque Dieu aura transformé sa vie. Et vous verrez même que vos prières seront beaucoup plus puissantes, avec beaucoup plus d'insistance. Peut-être même le Seigneur vous donnera des images. Parce que vous décidez de croire la foi, en fait, c'est comme si la foi est activée à ce moment-là. Et il continue, mon frère, de venir me visiter. Et puis arrive un moment où voilà, je me lance dans toutes sortes de choses, j'essaie de combler le vide que j'ai en moi. Alors je fais du rap, je fais toutes sortes de choses, j'essaie de faire rapide parce que j'ai pas non plus énormément de temps. Et puis arrive un moment où mon frère, je le vois plus pendant peut-être un mois, parce qu'il me parlait tout le temps de Jésus et tout ça, et j'en avais marre. Et puis un jour je suis confronté à un dilemme. Je suis avec un ami à moi qui me dit: écoute, demain, après ma sortie de prison, il me dit: demain on peut ouvrir un grand un four, ça s'appelle, on va dire un magasin de drogue, et où là vraiment ça va, on va carburer, je te passe telle voiture et tout ça, tu vas bien, ça va marcher. Et il me dit: donne-moi ta réponse demain. Je dis d'accord. Je rentre chez moi et mon frère est là. Ça faisait un mois que je l'avais pas vu. Et il me dit: ça va? Et d'habitude je dis oui, ça va et tout, et là je lui dis: ouais, ça va pas. Alors comme un bon chrétien, il voit une belle porte ouverte. Et il me dit: tu sais que Dieu t'aime et qu'il peut changer ta vie. Et ce jour-là, c'était pas comme d'habitude, parce que combien de fois il m'avait envoyé des messages sur la fin du monde, Jésus revient, toutes sortes de choses qui m'avaient pas ça m'avait percuté dans les émotions, mais pas par le Saint-Esprit. Et ce jour-là, quand il m'a dit cette phrase, ces simples mots-là, c'est une flèche vraiment qui est venue dans mon cœur se poser, et j'ai rien dit. Et je l'ai laissé partir. Et ce jour-là, il était venu pour nous dire qu'il déménageait dans le sud. Alors du coup, c'était la dernière fois que j'ai vu mon frère à ce moment-là. Et je me retrouve comme ça et je me dis: j'ai un choix entre répondre à l'offre que j'ai eue la veille favorablement, et je sais très bien que cette fois, il n'y a pas de retour en arrière, ou alors de suivre Jésus et de tout lâcher. Et en cogitant, je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas trouvé quelque chose pour vraiment combler mon cœur. Rien, 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 rien. Et pourtant, j'avais tellement de vide. Et c'est pour ça aussi que j'étais dans la drogue ou dans tout ça, parce que des vides intérieurs beaucoup, beaucoup trop puissants. Et puis, je décide de suivre Jésus. Alors, je prends mon téléphone et je supprime tous mes contacts, mes réseaux sociaux. Et là, je monte dans ma chambre et je dis à Dieu: écoute, voilà, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Si tu peux changer ma vie, alors vraiment change-la, je te la donne. Et quand je fais cette prière, il y a réellement l'Esprit de Dieu qui descend dans ma chambre. Quand ça se passe, en fait, je suis convaincu qu'en fait, là, Dieu est ici avec moi et que ma vie sera plus jamais la même. Et alors que ça se passe comme ça dans ma chambre, je descends. Je me rappelle, il y avait mes cigarettes posées sur la table de la cuisine, et je me rends compte, j'ai plus envie d'aller fumer, en fait. J'étais alcoolique à cette époque, je buvais du matin 9h jusqu'au lendemain à 4h du matin. Donc c'était ça tous les jours. Ça veut dire que j'étais même plus lucide en fait au final, parce que j'avais comme deux personnalités, la personnalité alcoolisée et la personnalité non alcoolisée. Et puis je ne sais pas si vous vous rappelez de la personne sur la vidéo, mais c'est lui, c'est mon frère. Et puis du coup, Francky, tu m'as perturbé, du coup, je me suis un petit peu perdu. Et donc, quelqu'un peut me rappeler où j'en étais, s'il vous plaît, parce que exactement. Donc, j'étais tout le temps alcoolisé, et là, d'un coup, je suis délivré du coup de l'addiction à l'alcool. J'ai plus mes addictions, et arrive le moment où là, je perds tout le monde, donc tous mes amis, parce que je décide de les lâcher. Je quitte mon quartier du jour au lendemain, et arrive du coup le moment de la. Ça va aller. Arrive le moment du coup de la reconstruction. Là, on arrive au moment de la reconstruction. Ça veut dire la renaissance. Là, je nais vraiment de nouveau. Ah, hop, je vais avancer. C'est bon. Voilà, le moment de la reconstruction, donc la renaissance où là, ça y est, je nais vraiment de nouveau et Dieu déconstruit le passé. Mais maintenant, Dieu va falloir qu'il reconstruise mon futur. Alors effectivement, l'Esprit de Dieu m'a délivré, m'a changé. Vraiment, c'était une conversion de feu bouleversante. Mais mon âme a toujours ses blessures, vous comprenez ? Il y a des traumatismes d'enfance, il y a des choses que j'ai pu vivre qui m'ont beaucoup blessé, des manques affectifs aussi. Je passe de 20 personnes dans mon quartier par jour à faire la fête à tout seul. J'ai eu une relation amoureuse de 7 ans tout seul. Donc j'ai plus personne. Comment je vais faire ? Alors oui, Dieu est là, et gloire à Dieu, Dieu m'a tellement béni. Dans ma chambre, je m'enfermais 4 heures par jour pendant un moment, j'avais tellement soif de lui. J'ai entendu sa voix dans ma chambre et je l'atteste, Dieu est vivant. J'ai vécu des choses extraordinaires avec lui, mais mon âme a encore des blessures. Qui va être là pour m'accompagner dans ce chemin ? Mais vous savez quoi ? La mission de mon frère, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. On aurait pu dire, c'est bon, il a prié pour moi, et maintenant qu'il a prié, ben c'est bon, je me suis converti, c'est bon, il peut passer à quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas faire un disciple, c'est faire un croyant. C'est on fait que quelqu'un se convertisse. Mais il fallait que mon frère fasse de moi un disciple de Jésus, quelqu'un qui suit Jésus. Alors il a dû m'accompagner. Ça veut dire que j'avais plein de questions, j'avais 1 milliard de questions, j'avais 1 milliard de choses à lui dire parce que je pouvais parler à personne. Il fallait qu'il soit là. Donc mon frère qui a des enfants, qui a une femme, qui a une vie, qui a un travail, mais qui doit aussi m'accompagner. Vous savez, pour moi, en tout cas, c'est surnaturel de pouvoir faire un disciple. C'est surnaturel. Ça prend du temps. Je sais parce que je l'ai vécu dans ma vie chrétienne, je le vis encore actuellement. Faire un disciple, c'est très compliqué, vraiment. Il faut vraiment une énergie qui vient de Dieu. Il faut une patience qui vient de Dieu, un discernement qui vient de Dieu pour donner des directions parfois à la personne qui n'entend pas forcément tout le temps la voix de Dieu. Moi, j'entends pas la voix de Dieu H24. Je sais pas si vous l'entendez tout le temps. Moi, personnellement, je n'entends pas tout le temps la voix de Dieu. Alors parfois, j'avais besoin de direction. Et donc, j'avais besoin de quelqu'un et il y avait mon frère qui était là. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, c'est plus... Alors, j'ai toujours besoin de prière. Mais celui qui a le plus besoin de prière, c'est lui. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui va devoir maintenant m'accompagner et le chemin va être encore plus difficile. Parce qu'il y a les moments de haut, il y a les moments où tu vis avec Dieu, c'est excellent, il y a les moments difficiles, tu luttes encore avec certaines choses et doit être là pour m'encourager et tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que des fois on entend des œuvres de certains évangélistes, certaines personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux, on se dit « Waouh, gloire à Dieu ce qu'ils font, gloire à Dieu ce qu'ils vivent, des personnes sont sauvées, des personnes sont touchées. » Et on dit « Gloire à Dieu » et ensuite on va manger un truc devant la télé. Mais il faut prier pour ces gens-là. Il faut prier pour les gens comme mon frère par exemple qui doit accompagner quelqu'un. Il faut prier pour les gens comme moi, comme certaines personnes qui sont là et qui accompagnent des gens. On ne réalise pas que c'est surnaturel et le temps que ça prend pour pouvoir y arriver. Il faut prier pour ces gens et dire, mais Seigneur, mais donne-leur une force particulière, donne-leur une onction particulière pour qu'ils puissent arriver à suivre la personne, à avoir le discernement, à avoir la patience. Des fois, c'est dur. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il faut qu'on prenne cette habitude de prier pour ces gens qui vont au charbon. Des fois, nous, on peut pas. Des fois, on est malade. Des fois, on sent pas forcément cette capacité forcément à crier dehors dans les rues, Jésus, Jésus, Jésus et tout ça. Ça veut pas dire qu'on est moins bien ou ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on se complète. Et des fois, je pense que déjà même bibliquement parlant, les deux plus grands ministères, vraiment, c'est l'intercession et l'adorateur. Vraiment, ces deux ministères vraiment très particuliers. Donc, intercédons pour les évangélistes, pour les personnes qui y vont. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et je suis convaincu qu'ici, plus de la moitié sont justes. Pourquoi ? Parce qu'on a le sang de Jésus-Christ qui nous purifie et qui nous justifie. Ça veut dire que nos prières ont une grande efficacité. N'hésitons pas à prier vraiment pour ces gens. Mon frère qui est là, Francky, du coup, si tu veux peut-être ajouter quelque chose par rapport à la prière, vraiment, je t'inviterais vraiment à le faire. Parce que je sais qu'en fait, je sais que ce que tu as vécu, en tout cas très courtement, tu vois, mais si tu peux apporter quelque chose par rapport à ça, et pour encourager des personnes qui aujourd'hui prient pour des gens qui qui ne prient pas, peut-être pour des personnes qui ont besoin de connaître le salut, en tout cas.
Voilà, vous voyez mon visage. J'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup. Moi, ce n'était pas prévu. Je revenais d'une église qui est sur l'île. Du coup, voilà, j'ai essayé de passer le plus vite possible, mais j'ai pu venir que maintenant. En tout cas, oui, effectivement, c'est toujours frappant ce témoignage. Et moi, quand je l'entends, je suis ému. Je suis pris de compassion. Mais c'est la grâce de Dieu, quoi. Vraiment, c'est la grâce de Dieu. Et je voudrais vous sensibiliser sur une phase qui est importante. C'est ce qu'on voit, voilà. Moi, je sais que quand je l'ai aidé à surmonter certaines épreuves, il n'était pas du tout comme ça. Et encore là, hein, il y a encore des épreuves, et moi aussi. Et Dieu, par contre, ne voit pas, en fait, ce schéma. Il ne voit pas comme nous, en fait. Et c'est pour ça qu'il dit qu'au-delà, que le ciel est élevé, au-delà, ses projets ou la vision est élevée. Moi, quand j'allais dans les quartiers pour rencontrer mon frère pour lui parler de l'Évangile, j'étais face à quelqu'un qui était fermé, qui avait peur, qui écoutait d'une oreille et qui n'était pas attentionné, quoi. Et quand je quittais, je dis, mais Seigneur, je lui ai dit tellement de vérité, je lui ai dit tellement de choses, pourquoi ? Le Seigneur me disait dans mon cœur, mais je suis un Dieu de foi. Il faut avancer par la foi. Et même si tu ne vois pas, il y a des choses qui se passent dans son cœur. Tu ne vois pas son cœur, ce qui se passe. Moi, je sais ce qui se passe dans son cœur. Et même si sa conversion elle a été radicale sur un moment, il y a quand même eu des semences dans ce parcours, en fait. Hein. Et vraiment, moi, sur le côté insistant, effectivement, c'est la prière, c'est le secret. Je dis souvent le secret dans la prière, parce que ça ne vient pas comme ça. C'est quand on prie que Dieu permet les occasions, qu'il ouvre le cœur de la personne. Mais aussi, surtout, vous avez peut-être des personnes à qui vous pensez, hein, je ne sais pas, des enfants ou des cousins, cousines, frères et sœurs, même lorsque vous partagez l'Évangile, parce que de toute façon, vous le ferez maladroitement. On n'est pas parfait. Mais sachez qu'il se passe toujours quelque chose. L'Évangile, ce n'est pas n'importe quoi. C'est vraiment la parole de Dieu qui sauve quiconque croit. Quiconque croit, en fait. Et ça a une puissance, lorsqu'on y croit, de fou. De fou. Comme le disait mon frère, bon, aujourd'hui j'ai 5 enfants. Merci Seigneur. Je suis marié. Et c'était pas facile d'aller le rencontrer, parce que je peux pas laisser ma femme comme ça longtemps avec les enfants. Il y a aussi une certaine sagesse à avoir, on peut pas faire n'importe quoi. Mais il y avait toujours un défi, parce que aller dans un quartier chaud, avoir des menaces, parce que je pense que Freddy, t'as dû entendre des menaces sur ma vie ou sur les parents et tout. On a conscience de ça, en fait, hein. On se dit, bon, bah, Seigneur, tu m'envoies. Et on tremble aussi. On n'est pas surhumain, hein. On tremble, hein. Mais j'avais conscience d'une chose, c'est que Jésus, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a arraché de tellement de choses, il est avec moi. Il est dans la voiture, il est là. Et lorsque je vais lui parler, je vais parler avec ma voix, avec ma connaissance, avec ma faiblesse, mais je vais parler avec le Seigneur. C'est lui qui va m'inspirer et les paroles que je dirai, elles vont impacter son cœur parce que ce ne sont pas mes paroles, c'est les paroles de Dieu. Et je pense dans cet élan de foi, malgré, et j'insiste sur la faiblesse parce que je sais qui je suis, je ne vais pas faire paraître de choses, je sais qui je suis et je sais qui nous sommes tous. On est faible, mais par la grâce de Dieu, nous sommes forts et c'est par cette force-là qu'il faut aller. Quand Freddy disait que c'était important de prier pour les évangélistes, ceux qui ont un ministère au contact des autres, on va dire, c'est surtout pour que ces personnes soient sensibles à ce que Dieu leur demande, comme on le voit dans la parole, hein, quand Paul dit « Priez pour que je puisse apporter ce que je dois apporter ». Ça veut dire qu'il reconnaissait aussi en quelque part ses faiblesses, on ne sait pas. Moi, je pense, Freddy, je t'ai dit tellement de bêtises des fois, parmi tout ce que je t'ai dit, mais il y a des choses que tu as dû retenir et qui t'ont fortement impacté. Donc voilà, je ne sais pas si c'était suffisant, mais je sais très bien que ce qu'on peut faire et ce que vous pouvez faire dans vos partages, vos proches, vous ne verrez pas les choses s'accomplir tout de suite. Et d'ailleurs, vous verrez peut-être des fois l'opposé. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Je dirais pas que c'est anormal, par le contraire, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Par la grâce de Dieu, j'ai pu accompagner mon frère, mais j'ai accompagné aussi d'autres personnes. Et j'ai toujours vu le contraire. Toujours vu. De personnes à qui je parlais, et je le sentais très touché par l'évangile. Il faisait 3 pas et j'avais l'impression qu'il en faisait 20 derrière. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Seigneur dit, continue. Cette personne, il se passe quelque chose dans son cœur, même si tu ne le vois pas. Donc voilà, c'était juste ça.
Merci beaucoup, Francky, pour ce partage. J'espère en tout cas que ça vous a édifié. Je sentais qu'il fallait que tu apportes ça. Donc voilà, vraiment, pour terminer sur cet avant-dernier point, c'est que vraiment de prier pour les gens qui vont, comme lui, qui vont voir leurs frères, ou vraiment que Dieu leur donne vraiment cette puissance, en fait, qui lui donne ces occasions de pouvoir annoncer l'évangile, reprendre, exhorter. Voilà. Arrive maintenant, le dernier, entre guillemets, chapitre. Donc ma mission. Alors depuis le temps, il me reste combien de temps là? Il me reste peu de temps. Donc après ma conversion, comme je l'ai expliqué, hein, j'ai été accompagné, j'ai eu mon parcours avec la reconstruction, donc la guérison de certaines blessures de l'âme et tout ça. Mais à côté de ça, j'ai été béni de la grâce de Dieu de pouvoir apporter l'évangile un peu partout dans la France, par la grâce de Dieu, par notamment un collectif qui s'appelle les Rescapés. Je sais pas si vous connaissez les Rescapés. Donc c'est un collectif en fait où on a tous plus ou moins des témoignages un peu particuliers qui sortent un peu des fois du lot. Et en fait, on a créé ce collectif-là et en fait, on va dans la France, en fait, dans certaines églises ou pas, des fois dans des salles, pour pouvoir partager ces témoignages-là. Et à la fin, on annonce l'évangile clairement, purement, et on demande aux gens s'ils veulent accepter l'évangile tout simplement. Et donc voilà, ça, j'ai commencé par ça. Ensuite, j'ai fait une école biblique à Mulhouse, en Alsace, à la Porte Ouverte. Je ne sais pas si vous connaissez la Porte Ouverte. L'église de la Porte Ouverte, j'étais vraiment béni au bénéfice de la grâce de Dieu parce que voilà, j'avais un an de conversion. Il y a plein de choses que je connaissais pas encore aujourd'hui, hein, que je connais pas à fond. Et en fait, le fait d'aller là-bas, vraiment, en tout cas au niveau théologique et tout ça, j'ai vraiment pu être tellement béni d'apprendre énormément de choses. Et aussi au niveau pratique, j'ai été le stagiaire de Thibaut Geyer, un pasteur de la Porte Ouverte. Je sais pas si vous connaissez. C'est un pasteur aussi qui m'a beaucoup béni. Par le biais de son ministère, c'est un évangéliste aussi avec un ministère prophétique, donc j'ai pu être pas mal enseigné, c'était vraiment excellent. J'ai pu faire beaucoup d'évangélisation, on a vécu vraiment pas mal de choses, beaucoup de témoignages vraiment incroyables. Et ensuite, donc j'ai pu rencontrer ma femme qui est ici présente. Je pense que après le salut, c'est mon plus beau cadeau que Dieu m'ait fait. En tout cas, quelque chose que j'aurais jamais pensé aussi, j'aurais jamais même imaginé. Mais j'ai pu rencontrer ma femme du coup dans ce collectif de rescapés. Nous nous sommes mariés le 22 août 2020, donc là il y a un peu moins d'un an, nous sommes des jeunes mariés. Et du coup je vis sur Valence, dans la Drôme, avec Sarah. Et on a eu à cœur bon, plusieurs projets, hein, je fais rapidement, hein, on a eu plusieurs projets, j'ai fait du rap, je suis aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, où on essaye du mieux qu'on peut en tout cas de propager l'évangile. Et en fait, pourquoi un jour est née cette mission Sadi TV? Donc c'est un projet qu'on a eu ensemble, parce qu'un jour, Sarah a fait un compte TikTok. Qui connaît TikTok? Vous connaissez TikTok? Super, ok. J'ai entendu même les vieux, ils connaissent. Alors, c'est ma femme qui avait commencé à faire un compte TikTok. Et en fait, elle est très vite montée en abonnés. En fait, en deux jours, elle avait passé les 30 000 abonnés sur TikTok. Et je m'étais rendu compte que les abonnés qu'elle avait eus, c'était que des inconvertis, donc des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et je me disais, mais en fait, elle a réussi là où moi, j'ai échoué tout le temps, parce que j'ai fait beaucoup de projets d'évangélisation. Mais au final, à la fin, tous mes projets, que ce soit le rap chrétien et tout ça, ça se tourne toujours à la fin vers les chrétiens. Et on se retrouve encore tous ensemble tout le temps. Et je me suis dit, ah mais Seigneur, mais j'aimerais vraiment comprendre cette vision-là que tu as. C'est comme Jésus qui allait et qui choquait. Jésus était avec les pécheurs, il allait les voir, il mangeait avec eux. C'est ça la vie d'un disciple. Et puis c'est là qu'on a discuté avec Sarah et qu'en fait on a commencé à créer ce concept, Sadi TV. Donc le concept c'est qu'en fait on va dans la rue, on va à la rencontre des gens. Et avec une caméra et tout ça, on fait des interviews, donc des micro-trottoirs. Et aussi des caméras cachées. Donc les micro-trottoirs, ça consiste en quoi? En deux choses. La première, c'est d'amener les gens à se poser des questions qui ne se seraient jamais posées s'ils ne nous avaient pas croisés. Je suis bien prononcé, ça va? Donc ça veut dire que le fait qu'ils nous croisent, ce que je veux, c'est qu'ils se posent des questions. Si on n'avait pas été là, peut-être jamais se serait posé cette question. Vous comprenez? À quoi ressemble Dieu, par exemple? C'est vrai? Moi perso je me suis déjà posé la question, je sais pas vous, moi je me suis déjà posé la question, tiens à quoi ressemble Dieu? Et c'est bien des fois de poser ce genre de questions aux gens et quand ils rentrent chez eux ils peuvent se dire mais c'est vrai, qui est Dieu et à quoi il ressemble? Et la deuxième vision des micro-trottoirs du coup c'est de pouvoir bénir les gens, les divertir aussi. On sait qu'ils vivent beaucoup vivent dans le stress, dans les angoisses, beaucoup qui n'ont pas rencontré le Seigneur vivent avec beaucoup de détresse dans leur cœur. Et je sais que Dieu nous a communiqué une joie qui vient de chez lui, qui est unique, et on ne peut pas la garder pour nous. On doit la partager. Alors, avec ma femme, on a eu à cœur de la partager. Ça veut dire d'aller, et des fois, on sort, on se dit, aujourd'hui, il faut que les gens rigolent, sinon on ne rentre pas. Il faut que les gens, ils rigolent, il faut que les gens, ils sont contents, il faut que les gens, quand ils nous ont vus, après, ils partent et ils parlent de nous, ils sont en mode, ah, tu te rappelles, et tout ça, on est vraiment contents. Et c'est ça le but. Pour les caméras cachées, le but, c'est des expériences sociales. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, donc on va sensibiliser sur certains sujets. Par exemple, une des dernières qu'on a faites qui n'est pas encore sortie, Sarah, elle marche, elle va voir un groupe de personnes et elle dit « Écoutez, il y a un gars derrière, depuis tout à l'heure, il me suit, je ne sais pas pourquoi, j'ai un peu peur, est-ce que je peux rester avec vous ?» Et alors elle reste avec eux et moi je passe derrière et je dis à Sarah vas-y suis-moi et tout ça et tout ça et on voit la réaction des gens et à la fin on les sensibilise sur ça en leur disant voilà ce qui se passe aujourd'hui dans la France, en tout cas il y a tel pourcentage de harcèlement, comment on réagit par rapport à ça et tout ça et tout ça. Donc ça nous permet aussi de pouvoir parler de sujets d'actualité et pourquoi pas, surtout hors caméra, parler du Seigneur Jésus-Christ, parler des valeurs du royaume de Dieu en disant que par exemple Dieu ne tolère pas ce genre de comportement, que Dieu peut te protéger dans ce genre de situation et tout ça. Je vous donne juste un extrait un petit peu de ce qu'on peut faire sur la dernière vidéo du coup.
Le monde sont persécutés à cause de leur foi en une religion. C'est ce que 260 millions de chrétiens vivent actuellement dans le monde. Nous, on avait envie de sensibiliser par rapport aux chrétiens persécutés.
Donc on allait dans la rue et on a présenté aux passants cette pétition en leur demandant de signer pour la fermeture des églises sous prétexte qu'il y a trop de chrétiens en France.
Et qu'on en a marre des chrétiens. N'hésitez pas vraiment à lâcher un like, un commentaire ou à partager parce que vraiment ça nous encourage beaucoup.
On vous en dit pas plus, on vous laisse regarder.
Comme question, par contre, ça c'est hard. En vrai, on rigole et tout, mais l'enfer. En vrai, on va douiller en enfer. Personnellement.
Voilà, donc bon, c'est un extrait, hein, bien sûr, je voulais vous montrer. Donc on pose plusieurs questions. Donc, 1 million d'euros et tu vas en enfer, ou SDF toute ta vie et tu vas au paradis? Et ensuite, pourquoi? Et ensuite, bah, du coup, si tu choisis l'enfer, pourquoi? À quoi ressemble pour toi l'enfer? Ou à quoi ressemble pour toi le paradis? Et c'est bien de poser ce genre de questions parce que des fois, ils se sont peut-être jamais posé cette question-là. Et cette question peut être vraiment pertinente et salvatrice. Elle peut vraiment sauver une personne parce qu'elle peut se mettre à chercher qui est cette personne qui a créé justement l'enfer et le paradis. Donc voilà, c'est un petit exemple. On fait aussi beaucoup d'autres choses, mais bon, je vais pas tout détailler. J'aimerais terminer par ça. Alors, comme vous avez vu, c'était pas vraiment un message, même s'il y avait quand même un petit message derrière. Mais j'ai fait un peu comme Paul lorsqu'il dit dans la parole de Dieu, quand il revenait, il annonçait tout ce qu'ils avaient vécu et tout ça. Bon, j'ai pas tout annoncé parce que c'est pas le but. Mais j'aimerais juste retenir votre attention sur une dernière petite chose. C'est que avec Sarah, dans ce genre de projet, on n'a pas forcément besoin de finances, même si c'est cool aussi. Mais ce qu'on a le plus besoin, c'est de vos prières, vraiment. Parce que des fois, on se retrouve dans des situations qui peuvent être compliquées. On a déjà fait des sorties où, voilà, bah, c'est sec. J'ai envie de dire, on n'a pas eu cette occasion de pouvoir bénir vraiment des gens. Et puis, on rentre, on est un peu triste et tout. Et puis, on a vraiment besoin de vous, en fait, pour que vous puissiez prier pour ça. Et peut-être une fois par mois, ou peut-être vous puissiez y penser, mettre dans votre carnet et dire, ok, bah, une fois par mois, je vais prier pour Sadi TV, donc ce projet-là, et que Dieu les bénisse, les accompagne, les remplisse du Saint-Esprit. En tout cas, c'est vraiment sur cette chose que je voulais porter votre attention une dernière fois. Voilà. Bah, sinon, merci en tout cas de m'avoir reçu. C'est un très grand honneur pour moi, vraiment, vraiment, et je vous aime vraiment beaucoup. Hein. J'ai directement ressenti cette chaleur que j'avais ressentie au premier jour dans l'église lorsque j'y suis entré. Elle n'a pas changé, et gloire à Dieu, donc voilà.